Section troisième. Troisième degré de dépouillement. Mais c'est encore peu, si elle conservait sa beauté. Mais il, l'époux, l'a fait devenir laide et l'a fait perdre. Jusqu'ici, l'âme s'est bien laissée dépouiller des dons, grâces et faveurs, facilité au bien. Elle a perdu toutes les bonnes choses, comme les austérités, le soin des pauvres, la facilité à aider le prochain, mais elle n'a pas perdu les divines vertus. Cependant, ici, il les faut perdre, quant à l'usage. Car pour la réalité, elle s'imprime plus fortement dans l'âme. Elle perd la vertu comme vertu, mais c'est pour la retrouver en Jésus-Christ. Cette âme toute humiliée devient toute superbe à ce qu'elle croit. Cette âme si patiente, qui souffrait si aisément toutes choses et qui en faisait ses plaisirs, trouve qu'elle ne peut rien souffrir. Les sens perdent leur économie et semblent vouloir se révolter. Elle ne peut ni se mortifier, ni se garder de rien par ses propres efforts, comme auparavant. Et qui pisait, cette âme, ainsi défigurée, se salit à tout moment, à ce qu'elle croit. Elle se blesse avec les créatures. Elle se plaint avec l'épouse que les sentinelles l'ont trouvée et l'ont navrée. Je dois pourtant dire ici que les personnes de cet état ne font aucune faute volontaire. Dieu leur fait voir en général un si grand fond de corruption qui est en elles qu'elles diraient volontiers avec Job « Qui me donnera que je me cache dans l'enfer jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée ?» Car il ne faut pas croire qu'ici, ni dans la suite, Dieu permette que cette âme tombe dans aucun péché réel. Et cela est si vrai que, quoique elle paraisse à ses propres yeux la plus misérable des créatures, lorsque il s'agit de se confesser, elle ne trouve aucune faute en détail qu'elle ait fait et s'accuse seulement qu'elle est pleine de misère et qu'elle n'a que des sentiments contraires à ses désirs. Il est dans la gloire de Dieu qu'en faisant expérimenter à l'âme jusqu'au fond de sa corruption, il ne la laisse pas tomber dans des péchés. Ce qui fait sa douleur si épouvantable, c'est qu'elle est comme accablée de la pureté de Dieu, et cette pureté lui fait voir jusqu'aux moindres atomes d'imperfection, comme d'énormes péchés, à cause de la distance infinie qu'il y a entre la pureté de Dieu et l'impureté de la créature, de cet homme Adam pécheur. Elle voit qu'elle était sortie toute pure des mains de Dieu, et qu'elle a contracté non seulement le péché d'Adam, mais encore mille et mille fautes actuelles, de sorte que sa confusion est au-dessus de tout ce qu'on peut exprimer. Ce qui fait que les hommes la méprisent n'est point aucune faute particulière qu'ils remarquent en elle. Mais c'est que, ne la voyant plus faire tout ce qu'elle faisait autrefois avec tant d'ardeur et de fidélité, et juge par là de son déchet, en quoi il se trompe beaucoup. Ceci doit servir pour la suite, et pour tout ce qui peut être exprimé trop fortement, et que ceux qui n'ont point l'expérience pourraient prendre en mauvaise part. Il faut remarquer encore, quand je parle de corruption, de pourriture, de saleté, etc., que j'entends la destruction et la consomption du vieil homme par la conviction centrale et une expérience intime de ce fond d'impureté et de propriété qu'il y a en l'homme, qui le faisant voir à lui-même ce qu'il est en soi, sans Dieu, le fait crier avec David « Je suis un ver et non pas un homme. » Et avec Job « Quand j'aurai été blanchi comme la neige et que la blancheur de mes mains éblouirait par son éclat, vous me feriez voir, à mes yeux, tout couvert d'ordures, et mon vêtement aurait honte de me toucher. » Ce n'est donc pas que cette pauvre âme fasse les fautes qu'elle s'imagine de faire, car elle ne fut jamais plus pure dans le fond, mais c'est que les sens et les puissances étant sans soutien, principalement les sens, ils errent, vagabonds. De plus, comme la course de cette âme vers Dieu redouble, et qu'elle s'oublie davantage elle-même, il ne faut pas s'étonner si, en courant, elle se salit par les endroits pleins de boue où il faut passer, et comme toute son attention est tournée vers son bien-aimé, quoique elle ne s'en aperçoive pas, à cause de son état de course, elle ne pense point à elle, et elle ne songe pas où elle met ses pas. Cela est si vrai que cette âme qui se croit la plus criminelle de toutes les créatures ne fait pas une faute de volonté, quoique elle lui paraisse toute volontaire, mais bien de surprise. Souvent même, elle ne voit ses fautes que lorsque elles sont faites. Elle crie à son époux afin qu'il lui tende la main, mais il n'a garde de le faire, du moins d'une manière aperçue, quoique il la soutienne d'une main invisible. Cette âme pense quelquefois de mieux faire, mais c'est alors qu'elle fait plus mal, car le dessein de son époux, lorsque il la laisse tomber, sans cependant qu'elle se blesse, est afin qu'elle ne s'appuie plus sur elle-même, qu'elle reconnaisse son impuissance, qu'elle entre dans un entier désespoir d'elle-même, et qu'elle puisse dire « J'ai perdu tout espoir, et je ne vivrai plus ». C'est ici que l'âme commence à se haïr véritablement et à se connaître, ce qu'elle ne ferait jamais si notre Seigneur ne lui faisait sentir ce qu'elle est. Toutes les connaissances que l'on a de soi par lumière, de quelque degré qu'elles soient, n'ont pas le pouvoir de faire que l'âme se haïsse véritablement. Celui qui aime son âme la perdra, et celui qui la haït la sauvera. Il n'y a, dis-je, que cette expérience qui puisse faire véritablement connaître à l'âme son fond infini de misère. Toute autre voie ne peut donner une véritable pureté. Si elle en donne, ce n'est qu'en superficie et non dans le fond, où l'impureté est cachée et non exprimée et sortie. Ici, Dieu va chercher jusque dans le plus profond de l'âme son impureté foncière, qui est l'effet de l'amour-propre et de la propriété que Dieu veut détruire. Il la presse et la fait sortir. Prenez une éponge qui est pleine de saleté, lavez-la tant qu'il vous plaira, vous nettoierez le dehors, mais vous ne la rendrez pas nette dans le fond, à moins que vous ne pressiez l'éponge pour en exprimer toute l'ordure, et alors vous la pourriez facilement nettoyer. C'est ainsi que Dieu fait. Il serre cette âme d'une manière pénible et douloureuse. Puis, il en fait sortir ce qu'il y a de plus caché. Lorsque l'âme sent cette puanteur, elle croit que c'est une nouvelle ordure et qu'elle se salit, et c'est une tout au contraire. Cette ordure y était et elle ne la voyait pas. Elle ne la sent à présent que parce qu'on la lui ôte. Une personne qui aurait une apostume en quelque endroit n'en a pas le dégoût tant qu'on ne la lui ouvre pas. Mais lorsque le chirurgien fait une incision et qu'il fait sortir le pus, le malade se plaint de la puanteur qui lui fait mal au cœur. Cette apostume était aussi puante lorsqu'elle était cachée et qu'elle était plus dangereuse. Cependant, on ne se plaignait pas de sa mauvaise odeur. On croit être sali parce qu'elle suppure, et c'est le contraire. Il est vrai que le dehors en est sali, pour quelque temps, mais c'est afin que le dehors et le dedans soient purifiés dans la suite. Si Dieu ne faisait ainsi, l'amour-propre, cette apostume effroyable, ne sortirait jamais, et plus elle serait couverte de beaux habits, plus aussi serait-elle enfoncée, et plus elle se tournerait au-dedans, et gâterait sans qu'on s'en aperçût toutes les parties nobles. Je dis donc que cette voix si abjecte, si pauvre, si sale, a seule le pouvoir de purifier radicalement, et sans elle, on serait toujours sale, quoique l'on parût bien propre. Il faut donc que Dieu fasse sentir à l'âme ce qu'elle est jusqu'au fond. Cette grâce de foi, de dépouillement, s'attache toujours aux défauts les plus essentiels et les plus cachés dans l'amour-propre, à certains défauts mignons que la nature resserre, qu'elle conserve avec soin et que les autres ne voient pas comme des défauts. Au contraire, ils paraissent vertus, de sorte qu'en les perdant, il semble que l'on perde la vertu. Car la vertu ne s'acquiert véritablement que par les tentations contraires, ainsi qu'il est écrit, celui qui n'est pas tenté, que sait-il? Plus nous avons d'attache à une vertu, plus nous sommes exercés sur cette même vertu. Les défauts des autres voies sont connus plus superficiellement. Ce que Dieu va chercher dans le plus intime de ses âmes passerait pour perfection chez les autres, lesquels ont en effet une prudence admirable, une sagesse grande, mille propriétés qu'elles conservent chèrement. Elles ont du courage, ce sont de grandes âmes. Mais celles-ci n'ont plus rien du tout, ce n'est plus que faiblesse sur faiblesse, impuissance sur impuissance. On ne leur laisse pas la moindre propriété, les autres vont par ce qui est, et elles subsistent par quelque chose de grand. Elles vont de sainteté en sainteté, et celles-ci vont par ce qu'elles n'ont pas. Aussi sont-elles bien éloignées de s'attacher à rien, ayant tout perdu, étant si laides et si sales, à quoi s'attacheraient-elles? Les plus favorisées de ces âmes-ci, pour l'ordinaire, sont le rebut du monde. Elles sont toujours contrariées. Ce que les autres font est admiré, mais pour elles, il semble qu'elles gâtent tout ce qu'elles entreprennent. Elles ne réussissent à rien et ne sont approuvées en rien. Enfin, il faut que, malgré elles, elles se rendent justice et qu'elles voient tout bien-être en leur époux et tout mal-être en elles. On ne saurait croire, sinon par expérience, de quoi la nature abandonnée à elle-même est capable. Oui, notre être propre abandonné à lui-même est pire que tous les diables. C'est pourquoi il ne faut pas croire que cette âme ainsi dans la misère soit abandonnée de Dieu. Elle n'en fut jamais mieux soutenue, mais c'est la nature qui est laissée un peu seule et qui fait tous ses ravages sans que l'âme y ait aucune part. Cette pauvre épouse, désolée, courant çà et là après son bien-aimé, non seulement se salit beaucoup, comme j'ai dit, mais elle se blesse avec les épines qu'elle rencontre. Elle se fatigue si fort qu'il lui faut mourir et expirer dans sa course sans secours. Le plus grand bien de l'âme en cette voie est que Dieu lui soit impitoyable, et lorsqu'il veut bien faire avancer une âme, il la laisse courir jusqu'à la mort. S'il s'arrête pour des moments, ce qui ravit et vivifie cette pauvre âme, c'est à cause de sa faiblesse et qu'il craint qu'elle ne perde courage et que la lassitude ne l'oblige à se reposer. Lorsqu'il voit cela, il la regarde pour un moment, et cette pauvre âme, par ce regard, se trouve prise et blessée de nouveau, mais d'une manière si forte qu'elle est hors d'elle-même et demeure comme défaillie. Elle lui dirait volontiers, « Hélas, pourquoi m'avez-vous tant fait courir? Tenez-moi un peu de repos, afin que j'avale ma salive. Qui me donnera que je le trouve seul, et que je le mène dehors, et que je le vois face à face? » Mais hélas, lorsqu'elle croit le tenir, il s'enfuit de rechef. « Je l'ai cherché, dit-elle, et je ne l'ai point trouvé. » Comme, par ce regard de l'époux, l'âme est devenue plus amoureuse, elle redouble sa course afin de le trouver. Cependant, elle s'est arrêtée autant de temps que son regard a duré. C'est pourquoi l'époux ne la regarde que le moins qu'il peut, et que lorsqu'il voit qu'elle perd courage, et si elle était assez forte, elle irait bien plus vite sans s'arrêter. Si un voyageur pouvait toujours marcher, sans besoin ni de repos, ni de nourriture, il irait bien plus vite. Mais il lui faut, et l'un et l'autre, à cause de sa faiblesse, et l'un et l'autre lui donnent de nouvelles forces qui lui sont données à cause de son besoin et que la nature défaillirait s'il en était privé. Il en est ainsi dans cette voie. Cette âme meurt donc ici, véritablement à la fin de sa course, parce que toute force active lui manque pour courir. Car quoique elle ait été passive, elle n'avait pas pourtant perdu sa force active, quoique elle ne lui parût pas à elle-même. L'attrait la faisait courir, sans qu'elle le sût et connût. L'épouse dit « Tirez-moi, et nous courons. » Elle court à la vérité, mais de quelle manière? C'est en perdant tout. C'est comme le soleil qui court incessamment, sans sortir de son repos. L'âme perd tout ici, par le trépas mystique, pour courir sous un autre pôle, ou pour mieux dire, c'est comme un soleil qui s'éclipse de notre hémisphère, où il ne paraîtra plus, étant caché dans la mer. C'est là le sépulcre où l'âme éprouve une tout autre mort et sa puanteur, ainsi qu'il sera dit. L'âme ici se hait si fort elle-même qu'elle ne se peut souffrir. Elle n'a des yeux que pour se regarder de travers. Elle n'a que du mal à dire d'elle. C'est alors qu'elle n'est rien, ni devant Dieu, ni devant les créatures, ni devant elle-même. Elle croit que c'est avec raison que l'époux la traite de la sorte. Elle croit que c'est sa puanteur qui lui cause du dégoût. Elle ne voit pas que c'est tout le contraire. C'est pour la faire courir qu'il fuit, c'est pour la purifier qu'il semble la salir. Lorsque l'on met le fer dans le feu pour le purifier et lui faire perdre sa rouille, il paraît d'abord se salir et noircir, mais après, on voit bien qu'il a été purifié. Il ne lui fait expérimenter ses faiblesses qu'afin qu'elle perde toute force et tout appui propre, et que, désespérant de tout, il la porte lui-même et qu'elle se laisse porter. Car quelque forte que soit sa course, elle marche en enfant. Mais lorsque elle est en Dieu et que Dieu la porte, quoiqu'elle paraisse se reposer, ses démarches sont infinies, puisqu'elles sont celles d'un Dieu. Cette âme voit encore les autres parer de ses dépouilles. Lorsqu'elle voit une sainte âme, elle n'ose l'aborder et elle la voit parer avec admiration de tous les ornements que l'époux lui a ôtés. Mais, quoique elle l'admire, et qu'elle se sente enfoncée jusque dans l'abîme du néant, elle ne peut pas cependant désirer de les avoir, tant elle s'en trouve indigne. Elle croit que ce serait les profaner que de les mettre sur une personne si couverte de boue et d'infection. Elle se réjouit même de voir que, si elle fait horreur à son bien-aimé, il y en a d'autres qui font ses délices. Elle est bien éloignée de la jalousie des commencements, où elle le voulait toujours garder et retenir. Au contraire, elle est bien aise qu'il ne le regarde pas, afin qu'il n'en ait pas mal au cœur et qu'il prenne ses délices avec les autres, qu'elle croit fortunée d'avoir gagné les amours de son Dieu. Car pour les ornements, quoique elle les envoie parer, elle ne croit pas que ce soit cela qui les rende heureuses. Si elle trouve du bonheur pour elle à les en voir parer, c'est parce que ce sont les gages de l'amour de son bien-aimé. Lorsqu'elle se tient si petite auprès de ces âmes qu'elle regarde comme des reines, elle ne sait pas le bien que lui doit produire sa nudité, sa mort et sa pourriture. Il ne la rend nue que pour être son vêtement. Revêtez-vous de Jésus-Christ, dit saint Paul. Il ne la tue que pour être sa vie. Si nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous ressusciterons avec lui. Il ne l'anéantit que pour la transformer en lui. Cette perte de vertu ne se fait que peu à peu, ainsi que les autres pertes, et cet entraînement apparent au mal est involontaire, car ce mal qui rend ces âmes si sales à leurs propres yeux n'est point un mal véritable ni dangereux dont elles soient propriétaires. Car ici, elles n'ont ni de volonté propre ni d'arrêt à quoi que ce soit. Ce qui les salit sont des précipitations et promptitudes qui ne font que passer et qui ne laissent pas de les remplir de confusion. Ce sont certains défauts qui ne sont que dans les sentiments. Sitôt qu'une âme voit la beauté d'une vertu, elle tombe incessamment dans le vice contraire à ce qu'elle croit. Par exemple, si elle aime la vérité, elle dit des paroles précipitées ou d'exagération. Elle croit mentir à tout moment, quoique en effet elle ne le fasse pas, ne parlant pas contre son sentiment. Si elle aime la douceur, une promptitude inopinée lui survient, et il en est ainsi de toutes les autres vertus. Et plus les vertus sont de conséquence, et que l'âme y tient plus fortement, parce qu'elles lui paraissent plus essentielles, plus lui sont-elles arrachées en cette manière, avec plus de force et de douleur.